le château de Vent Hurlant, un sujet assez peu abordé autour du lore d'Elden Ring, et d'après moi à tort, car il présente un passé, une histoire très intéressante, qui rassemble l'Ordre d'Or, des personnages que vous croisez au cours de votre aventure, et un peuple passionnant, celui des chimères, des créatures mystérieuses que vous allez croiser à plusieurs reprises dans votre aventure, au château de Vent Hurlant notamment, mais pas seulement. J'adore m'intéresser aux peuples d'Elden Ring, car c'est selon moi ces peuples qui permettent de comprendre et de raconter au mieux l'histoire de l'Entre-Terre. Je vous ai déjà parlé des Nocriens, des Albinoriques, des Faucons de Voilorage, de la civilisation de Huld ou encore des Sans-Âme, mais c'est aujourd'hui aux Chimères que nous allons nous intéresser. Alors quelle est l'origine de ce peuple? Quelle est son histoire? Quels sont ses liens avec le château de Vent Hurlant et son passé? Hello à tous, c'est Ludic. Installez-vous confortablement, on va tenter de répondre à toutes ces questions dans ce nouvel épisode autour de l'univers d'Elden Ring. Lorsque vous approchez du château de Vent Hurlant, au dos de votre fidèle monture Torrent, vous croiserez en lisière de chemin un personnage féminin coincé dans une profonde détresse, un personnage du nom de Irina. Cette dernière se trouve au milieu de plusieurs cadavres de soldats de Godric, et il semblerait donc qu'elle faisait partie d'un convoi, possiblement un convoi commercial, qui se dirigeait vers le château et semble avoir été attaqué. Irina vous explique être à la recherche de son père, un dénommé Edgar qui n'est autre que le châtelain de Vent Hurlant. Consciente qu'elle ne pourra sûrement pas atteindre le château par ses propres moyens, elle vous confie une lettre à son intention, une lettre écrite sur un mouchoir brodé, taché de sang. Irina a bon espoir que cette lettre puisse enfin convaincre son père d'abandonner sa mission de commandant du château pour enfin la rejoindre.
I fear it's no different at Castle Morn. Please. I implore you, would you mind taking a letter to my father at the castle? My soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please, I just want him to be safe.
Ne faisant appel qu'à votre courage et votre sens du devoir, vous acceptez de rendre ce service à la jeune femme et reprenez votre chemin en direction du château. Après avoir terrassé quelques chiens, des créatures ailées mystérieuses et possiblement un géant de pierre muni d'un arc, vous arrivez devant l'immense forteresse. Vous empruntez l'ascenseur pour arriver devant un spectacle de désolation. Le château de Vent Hurlant est en ruine et occupé par ces mêmes créatures que vous avez croisées sur le chemin, les fameuses chimères. Comment ces chimères ont-elles réussi à prendre possession du château et quelle est leur histoire? C'est justement le père d'Irina qui nous met sur la voie.
There's a face I've not seen before. I'm Edgar. Warden of this castle, as ordained by Lord Godric himself. But you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out.
Le château est donc à la base la propriété de Godric, ce qui explique pourquoi Irina était accompagnée par ses soldats au cours de son convoi. Cela explique également pourquoi on observe encore à Vent Hurlant des soldats de Godric qui croisent le fer avec des chimères tentant de reprendre le dessus. De l'aveu de Edgar le châtelain, ces chimères étaient à la base des domestiques à son service, qui se seraient subitement rebellés. Edgar nous dépeint ici un tableau plus qu'utopique et qui l'arrange, car en réalité, si on observe le château un peu plus en détail, on se rend compte que les chimères étaient plus traitées comme des esclaves que des domestiques. Si vous descendez le long de la forteresse, vous en trouverez certaines complètement prostrées, les membres tremblants, caractéristiques de créatures qui se faisaient maltraiter. Un peu plus bas, on découvre une pièce dans laquelle on retrouve un grand nombre d'instruments de torture. C'est d'ailleurs en ce lieu que vous trouverez le fouet, un objet tout désigné quand il s'agit de maltraiter quelqu'un. Plus que des domestiques, les chimères de Van Hurlant étaient surtout des esclaves, au service de Edgar le Châtelain et de Godric. Mais Van Hurlant a-t-il toujours appartenu à Godric? Si l'on en croit un descriptif que l'on trouve à l'entrée du château, il aurait d'abord été l'apanage de l'Ordre d'Or et de Godfrey, et avant lui, la possession d'un mystérieux héros solitaire. Le siège du château de Van Hurlant. Un héros solitaire combat pour se venger. Hélas, il succombe face au seigneur Godfrey. Ainsi, si on retrace la chronologie de Van Hurlant, le château fut d'abord la propriété du héros solitaire. Ensuite, il fut récupéré par Godfrey et l'Ordre d'Or, au cours d'une féroce bataille, avant d'être réclamé par Godric après la disparition de Godfrey. On peut même imaginer qu'il s'agissait d'une des premières conquêtes de Godfrey pour Marika, lorsque celui-ci était à l'apogée de sa puissance. Quant au héros solitaire, il pourrait s'agir du premier propriétaire de la fameuse épée légendaire que Edgar le Châtelain tient tant à protéger, le fameux espadon fusionné. Le nom anglais du château de Van Hurlant, à savoir Castle Morne, est beaucoup plus parlant. On peut y voir la contraction de Castle Mounts, le château en deuil. En deuil de quoi? Eh bien certainement de son ancien propriétaire, le héros solitaire. Mais alors, où est-il passé? Et qui est-il? Tout laisse à penser que c'est sa tombe qui se trouve dans l'arène où vous affrontez la chimère Léonine, qui porte le nom de tombe de Van Hurlant. On y récupère le fameux espadon fusionné, l'arme d'un être vengeur imprégné d'un torrent de colère et de regret. Il est d'ailleurs très intéressant d'analyser l'arène de ce boss, et notamment ce monolithe en pierre qui siège au milieu. D'après Alt 236, il pourrait s'agir d'une référence à une œuvre du peintre Caspar Friedrich, l'abbaye dans une forêt de chênes, et c'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance. Anecdote amusante, l'abbaye qui a servi de modèle à Friedrich se nomme l'abbaye d'Eldena. Je vous laisse choisir s'il s'agit d'une coïncidence ou pas. Hep, j'en vois certains parmi vous qui regardent cette vidéo sans s'être abonné, alors si vous ne voulez pas que je vous envoie une chimère directement à domicile, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Allez, je vous laisse tranquille, bon visionnage. Comme nous le disait mon personnage préféré, le grand Kenneth Eight, Godric est un piètre souverain. Il s'est autoproclamé régent de Necrolimbe et s'est attribué certaines forteresses, comme celle de Kenneth ou le château de Van Hurlant, mais il n'en est pas pour autant respecté. Rien d'étonnant donc à ce que les chimères aient réussi à se rebeller et à prendre possession du château. Mais pourquoi ces créatures se sont-elles subitement retournées contre leur maître, et surtout, quelle est leur origine? Si on regarde la définition mythologique des chimères, il s'agit de créatures fantastiques malfaisantes dont le corps tient généralement pour moitié du lion et pour l'autre moitié de la chèvre, avec une queue de serpent. Plus grossièrement, par la suite, on a donné le nom de chimère à toute créature animale ayant un caractère composite bizarre. Ce qui nous arrange bien, car dans Elden Ring, leur apparence peut varier. Certaines, comme les chimères ailées, peuvent voler, d'autres sont plus imposantes et se battent avec une énorme hache. Enfin, les chimères léonines semblent être la version la plus puissante de ces créatures, avec un pelage plus roux et une apparence qui tient plus du lion. Pour comprendre leurs origines, il faut s'intéresser à la cendre d'invocation de la chimère ailée. On y lit que l'existence de ces créatures est considérée comme un châtiment pour avoir osé s'approcher du creuset primordial. Ainsi, dès leur naissance, elles sont traitées comme des esclaves ou pire encore. Attention, il faut bien faire ici la distinction avec les réprouvés. Les réprouvés sont bien une affliction de naissance, une manifestation du creuset primordial. Alors que pour les chimères, il s'agit d'une malédiction subie pour s'être trop approché du creuset, certainement afin d'en tirer un certain pouvoir. D'ailleurs, le nom anglais des chimères est beaucoup plus parlant. Elles sont appelées misbegotten, à savoir si on traduit littéralement les illégitimes, des créatures qui ont tenté d'exploiter la puissance du creuset, mais qui n'en étaient pas dignes, au contraire des chevaliers du creuset par exemple. Marika et l'Ordre d'Or auraient alors décidé d'en faire des esclaves à leur service, et bien des années plus tard, les chimères de Van Hurlant auront donc réussi à se rebeller pour prendre possession du château. On peut alors se poser une question simple. Qui fut la première chimère? Qui fut cet être qui, pour la première fois, se rapprocha trop près du creuset, sûrement pour tenter d'en extraire le pouvoir? Vous l'avez sans doute compris, je pense qu'il s'agit d'un personnage que vous connaissez très bien, et que vous côtoyez tout au long de l'aventure, Hugh le Forgeron. Tout dans l'aspect de Hugh le relie aux chimères, son visage, ses écailles, cette queue serpentine, et son apparence relativement âgée, tout suppose qu'il s'agit d'un ancien représentant de cette race. De plus, il s'agit de la seule chimère étant douée de paroles. Je suppose donc que Hugh est le premier être à s'être intéressé au creuset et à avoir été transformé en chimère. On peut alors émettre une théorie. Et si Hugh, avant d'être une chimère, était auparavant un humain tout à fait normal? Il pourrait même être ce fameux héros solitaire, celui vaincu par Godfrey et le créateur de l'Espadon fusionné. Un champion solitaire déterminé à continuer le combat et qui s'empara de toutes les lames d'un clan de guerriers.
It is yet long, a god is not easily felled. But one day without fail you will have your wish. So please grant me forgiveness, Goinmerica.
Il se serait alors approché du creuset pour tenter d'exploiter son pouvoir et prendre sa revanche. Mais une fois maudit, Marika décida d'en faire son esclave personnel, d'où les chaînes à ses pieds. À plus long terme, elle décidera de se servir de lui en l'envoyant au bastion de la Table Ronde pour forger une arme capable de tuer un dieu. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi les chimères de Van Hurlant se rebellent comme si elles tentaient de récupérer le château de leur ancien maître. Je précise que jusqu'à maintenant, nous nous sommes intéressés uniquement aux chimères de Van Hurlant, mais j'ai tout à fait conscience que les autres chimères présentes en Entre-Terre peuvent avoir une toute autre histoire. C'est sûrement le cas pour les chimères se trouvant à l'arbre sacré de Mikaela, mais aussi pour la chimère Léonine qui se bat avec un chevalier du creuset au château du Lion Rouge. Amusant d'ailleurs de retrouver une chimère avec un chevalier du creuset quand on sait que c'est justement le creuset primordial qui est responsable de leur état. Mais c'est une chimère léonine bien particulière qui a retenu mon attention. Je veux parler de celle se trouvant dans la grotte des Parias, au sein des champs de neige consacrés. Dans cette grotte absolument magnifique se trouve un certain nombre de chimères qui semblent y avoir élu domicile, et au bout de celle-ci, une chimère léonine en possession d'une épée légendaire et non des moindres, puisqu'il s'agit de l'épée de Radagon. J'avoue ne pas réussir à comprendre comment cette chimère léonine a pu entrer en possession de cette épée. Autre mystère que je ne m'explique pas, c'est la présence des méduses à proximité des chimères léonines. C'est le cas pour celle de la grotte des Parias, où l'on peut apercevoir les méduses sous une épaisse couche de glace, mais c'était également le cas à Van Hurlant, juste avant la reine du boss. Néanmoins, là encore, j'ai une petite théorie à vous soumettre. Et si les chimères étaient en réalité un antique peuple de forgerons légendaires, un peu à l'image des elfes de Tolkien? Cela expliquerait pourquoi l'Ordre d'Or s'intéressait autant à eux et s'en servait comme esclaves. Cela expliquerait Hugh le Forgeron. Mais cela expliquerait surtout pourquoi trois chimères léonines se retrouvent chacune en possession d'une arme légendaire, comme si ces chimères tentaient de récupérer un travail qu'elles auraient forgé par le passé. La chimère léonine de Van Hurlant détient l'espadon fusionné, celle de la grotte des Parias possède l'espadon de l'Ordre d'Or, et celle du château du Lion Rouge l'espadon des Ruines. Trois chimères léonines, chacune en possession d'une telle arme, cela ne peut pas être un hasard. Quant à la présence des méduses, elle pourrait se justifier par le fait que ces dernières semblent toujours se tenir à proximité d'un objet rare, comme les artérias ou les cendres d'invocation. Elles resteraient donc aux côtés des chimères, car ces créatures sont toujours en possession d'un objet légendaire, à l'image des dragons de Tolkien, là encore, qui étaient attirés par l'or. Quid du devenir de Edgar le Châtelain et de sa fille Irina? Eh bien, après avoir terrassé la chimère léonine de Van Hurlant, vous trouverez Edgar au pied du cadavre de sa fille, qui semble avoir été terrassé par ces mêmes chimères, en témoigne le hachoir se trouvant à proximité. Mais il semblerait que Irina ne soit pas véritablement morte, puisqu'elle vous réapparaît sous les traits de Ieta, une servante de la flamme exaltée que vous pouvez nourrir avec des fruits de Chabriri. Quant à son père Edgar, il tentera de vous attaquer si vous vous rendez à la cabane du Vengeur. Quelle ironie pour celui qui protégeait justement l'épée d'un être assoiffé de vengeance et de rancœur. Le fruit de Chabriri que vous récupérez sur son cadavre témoigne du fait qu'il a succombé, à l'image de Chabriri, à la colère et au remords qui l'emplissaient. La mort de sa fille Irina était-elle vraiment le fruit du hasard, ou était-ce une manipulation savamment orchestrée depuis le début par la flamme exaltée? Nous n'aurons jamais vraiment la réponse. Vous l'avez remarqué, les chimères nous réservent encore leur lot de secrets et de mystères, et je n'ai pas toutes les réponses. Néanmoins, ce fut un plaisir de vous en parler dans cette vidéo, et si vous avez des interprétations ou théories à leur sujet, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon activité en devenant membre soutien par exemple, en nous rejoignant sur Twitch ou même sur la page YouTube de la chaîne. Je peux d'ores et déjà vous dire que la prochaine vidéo sera enfin celle sur Mikaela. Cela va prendre du temps et du travail, mais je ferai en sorte que le résultat soit à la hauteur. D'ici là, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao.